voici le point sur l'actualité par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un avion russe avec 14 militaires à bord a disparu des écrans radars hier soir au-dessus de la Méditerranée. Alors que la Syrie était frappée par des missiles israéliens, c'est ce que vient d'annoncer le ministère russe de la Défense, affirmant également que des missiles ont été tirés par une frégate française. Paris dément toute implication. Regain de tension peut-être entre les grandes puissances plus ou moins impliquées dans la guerre en Syrie, au lendemain d'un accord trouvé entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis les bords de la mer Noire à Sotchi, les deux hommes ont décidé hier de créer une zone démilitarisée dans la province syrienne d'Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie, qui est dans le viseur du régime. Cette zone tampon doit servir à séparer les forces pro-Damas des civils de la rébellion et des djihadistes. Les précisions à Moscou de Claude Bruyot.
Il fallait afficher un autre bilan qu'il y a 10 jours à Téhéran. Alors Vladimir Poutine et Recep Erdogan ont décidé d'administrer ensemble, par troupes interposées, cette future bande de terre démilitarisée. Une occasion pour Erdogan de contenir les réfugiés sur le territoire syrien. Un moyen pour Vladimir Poutine de conserver son allié turc dans la partie et surtout de créer un espace qui, espère le président russe, permettra de faire le distinguo entre populations désarmées et djihadistes.
Vers le 10 octobre 2018, à partir de la proposition du président de la Turquie, nous devrons avoir réalisé dans cette zone la sortie de toutes les armes lourdes, des blindés et des armes anti-aériennes, la sortie des armes de tous les groupes d'opposition et nous devrons en organiser le contrôle avec les forces turques et la police militaire russe.
Officiellement, le pouvoir russe assure que cette zone démilitarisée évitera un assaut sur Idlib, mais pour le coup, aucune indication hier soir sur la façon dont les alliés d'Al-Assad, russes en tête, envisagent clairement de mettre hors d'état de nuire les djihadistes de Tahrir al-Sham qui contrôleraient encore les deux tiers du territoire.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. À la une en France, Emmanuel Macron présente ce matin sa réforme de la santé. L'Élysée veut placer le patient au cœur du système et rapprocher médecine de ville et hôpital. L'État veut une collaboration renforcée dans des établissements de proximité pour le suivi des malades chroniques notamment, ou pour la sortie d'hôpital des patients. Frédéric Pierru, chercheur au CNRS, estime lui qu'il faut changer de regard et de pratique en profondeur face aux maladies chroniques, diabète, cancer, hypertension, qui consomment une très grande partie du budget de la sécurité sociale.
Une maladie chronique, c'est un parcours de malade. C'est-à-dire, vous allez aller voir votre médecin généraliste, vous allez être suivi par une infirmière libérale, et puis vous allez faire, en cas d'aggravation, un séjour à l'hôpital. Et tout ça, ça suppose une excellente coordination des soins. Or, notre système, il est fondé sur la méfiance. C'est-à-dire, tout le monde déteste tout le monde. Les médecins de ville détestent les hospitaliers, les infirmières libérales n'aiment pas trop les médecins. Donc, vous voyez, il faut aller vers un travail en équipe. Les maladies chroniques, ça nous oblige à revoir l'ensemble du système. Et quand vous faites une réforme systémique, vous engagez des rapports de pouvoir et des luttes politiques. Bah oui, la médecine libérale va devoir évoluer par rapport à son modèle historique de 1927. L'hôpital va devoir changer ses pratiques. Il va falloir mettre plus l'accent sur la prévention, etc. C'est pour ça que, en tout cas, une réforme vraiment ambitieuse répondrait à tous ces défis-là.
Le chercheur au CNRS Frédéric Pierru au micro de Tara Schlegel. Il a dirigé pendant 16 ans la capitale des Gaules. Gérard Collomb annonce ce matin qu'il sera candidat en 2020 au municipal à Lyon ainsi qu'à la métropole. Le ministre de l'Intérieur envisage de quitter le gouvernement après les européennes de juin 2019 pour mener sa campagne. Et c'est ce qu'il annonce donc dans un entretien à l'Express paru ce matin. Il s'agit ni plus ni moins que de remplacer le statut des cheminots pour tous les nouveaux embauchés à la SNCF à partir du 1er janvier 2020. Première séance de négociation aujourd'hui sur la convention collective du secteur ferroviaire entre les syndicats et les représentants du patronat. Un peu plus de 2 mois après la fin de la longue grève en pointillé à la SNCF, il y a du pain sur la planche, Maxime Deps.
Des réunions comme celle d'aujourd'hui, il y en aura 8 d'ici la fin de l'année. Cela fait beaucoup d'un côté, mais pas trop non plus au vu du chantier. Premier thème qui sera abordé aujourd'hui, celui du salaire de base auquel pourra prétendre le salarié du rail à l'avenir. La fin d'embauche au statut rebat les cartes. Jusqu'ici, un cheminot avait à son embauche la garantie d'une progression linéaire tout au long de sa carrière. Qu'en sera-t-il demain ? Autre sujet qui viendra plus tard, dans quelles conditions se fera par exemple le transfert de personnel lorsque dans une région un opérateur privé prendra un marché, une ligne à la SNCF. Et puis autre sujet à risque, celui de la santé. Les cheminots à la SNCF bénéficient d'un système avantageux avec 1. Des consultations gratuites et 2. Des rendez-vous quasi instantanés pour consulter un ophtalmologue par exemple. 8 jours d'attente pour un cheminot, dit un syndicat, 6 mois parfois pour quelqu'un de lambda. Toutes ces questions délicates devront être tranchées avant le 1er janvier 2020, date d'arrivée de la concurrence, le tout dans un contexte qui va se compliquer d'ici quelques mois avec le coup d'envoi annoncé en parallèle du chantier des retraites. Attention, terrain miné.
Le temps de ce mardi 18 septembre, nuageux au nord de l'Hexagone, orageux du centre au nord-est, plus ensoleillé sur le reste du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 24 degrés près de la Manche, de 23 à 28 de la frontière belge jusqu'en Poitou-Charentes, 26 à 32 degrés sur le reste de l'Hexagone. Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.